Bonjour et bienvenue dans votre émission Au fil des mots.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour commencer notre émission, voici immédiatement la première chanson.
Gravité, sommets impossibles, ébranle les neiges impassibles, jusqu'à ce que ton corps défaille, hurle à t'en fendre les entrailles, épuise et use ton courage, écume et vomis tes rages. Enivre-toi des hauteurs, toise la lune et sa digne pâleur. Laisse-moi t'approcher, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Puis quand tes forces te quitteront, quand tes larmes s'effaceront, quand tes cris auront cessé, quand tes jambes auront lâché, laisse-moi t'approcher. T'animera, tu auras douté, ma prière t'apaisera, tu auras eu froid, le feu crépitera, tu auras pleuré, ton sourire t'accueillera, tu auras plongé, ma sève t'animera, tu auras douté, ma prière t'apaisera.
Aujourd'hui, on a des invités. Bonjour Claire, bonjour Isaac.
Bonjour Sabine.
Bonjour.
Salut vous deux.
Salut.
Alors, on reçoit Claire Bonaz pour son spectacle de conte Claire de Pau.
Oui.
Et Isaac Bonaz pour la sortie de son album Paradoxe.
Dont vous venez entendre le premier extrait qui s'appelle Sommet.
Alors, si vous voulez connaître plus en détail le parcours d'Isaac, je vous invite à écouter le podcast de l'émission du 5 septembre 2018 où on l'avait interviewé pour l'album Vertige. Mais aujourd'hui, on va parler de Paradoxe.
On va commencer avec Isaac. Isaac, salut. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler rapidement ton parcours, ce qui t'a amené donc à ce sixième album, s'il te plaît?
Je suis musicien et ingénieur du son. Je sors mon 6e album le 8 novembre prochain, qui s'appelle Paradox.
Ouais.
Cet album, très rapidement, est le 3e d'une trilogie que j'avais commencé en 2016 avec un album qui s'appelait Vivons, que j'avais écrit suite aux attentats qu'il y avait eu en France en 2015. C'était une atmosphère assez morbide, et donc voilà, j'avais sorti cet album Vivons comme une réaction, comme un cri d'espoir, voilà, dans le contexte dans lequel on était. Ensuite, j'ai fait l'album Vertige, qui est sorti en avril 2018, où je parle du vertige de la liberté. Et après, le cri collectif de Vivons, c'était aussi pour moi une façon d'aller plus loin et de poser la question de l'individu face à la liberté et puis ensuite face aux autres. Et là, avec Paradox, je finis un peu cette trilogie en explorant face au vertige de la liberté. Quand on décide d'exister, on a forcément un peu des paradoxes qui apparaissent. On vit alors qu'on sait qu'on va mourir, on aime alors qu'on est seul, on a de la joie alors que parfois on souffre. Enfin voilà, donc j'ai essayé d'explorer un peu ces paradoxes-là. L'histoire de tout ce que j'exprime dans l'album vient d'une histoire que j'ai écrite d'une jeune fille qui s'appelle Anna, et les titres de l'album correspondent à cette histoire.
Bien fait, cet album, c'est le 6e.
Oui.
De toute ton activité professionnelle. Donc cette trilogie dont tu parles, elle est posée donc sur tout ce vécu que tu viens de nous expliquer. Quand on s'était rencontrés à l'époque, on avait exposé ton passage en Afrique,
oui.
Tout ce que ça t'avait apporté, la façon dont ça t'avait marqué. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage en Afrique, de ce que tu as pu trouver en arrivant en métropole, peut-être des paradoxes donc qu'il y a entre la vie là-bas par rapport à celle d'ici?
Oui, en fait, oui. Pour resituer rapidement, j'ai passé 16 ans en Afrique. Je suis parti quand j'avais 2 ans. Je suis revenu habiter en France après mon bac. Bon, entre-temps, je suis revenu en France. J'ai pas passé 18 ans d'un bloc là-bas.
Oui.
Mais j'ai vécu pendant 16 ans là-bas. Et entre le Centrafrique, le Congo et le Tchad, ben voilà, l'influence que ça a sur ma vie est majeure, puisque j'ai passé toute mon enfance dans ces 3 pays. Effectivement, dans l'album Paradox, là, il y a un titre qui s'appelle Étranger, qui est en fait un titre que j'ai écrit assez peu de temps après, quand je suis rentré en France en 2002. Et j'ai écrit ce titre assez rapidement après, et il exprime, effectivement, là, je l'ai repris, en fait, je l'ai réarrangé dans l'album Paradox, je l'ai retravaillé, mais c'est un vieux titre que j'avais écrit. En arrivant en France, moi qui suis français, qui parle français, mes parents sont français, je suis blanc, j'ai tout d'un français. Quand on me voit, je me fonds dans la masse, mais que en fait, malgré ça, je suis arrivé en étant un étranger, parce que j'avais été étranger en Afrique, c'était évident, un blanc parmi des noirs. Et là, arrivé en France, je me sentais étranger aussi, parce que décalé, parce que pas la même culture, parce
évidemment.
Que pas les mêmes, pas rigoler aux mêmes blagues, pas avoir les mêmes références de séries télé, de musique, etc., etc. Donc c'est un paradoxe, voilà, d'être chez soi sans l'être. Au début, c'était assez difficile, parce qu'en fait, je pensais rentrer chez moi, en fait. Ça a été assez difficile, mais au final, après, on s'y fait. Et pour ma part, j'ai accepté que ça serait un peu toujours le cas, où que je sois. Et puis, plutôt que de s'en plaindre, autant faire des chansons, quoi.
Et une richesse, du coup, avec 2 cultures?
Oui, 2, voire plus, parce que même en Afrique, déjà, j'ai été dans 3 pays, 3 langues différentes. Enfin, même plus, parce qu'au Tchad, le dernier pays dans lequel j'ai été, j'y suis resté du coup 4 ans. C'est là-bas que j'ai passé mon bac. Il y a 126 ethnies et autant de langues, en fait. Même s'il y a des langues majoritaires ou officielles, il y a l'arabe, le français. Après, moi, j'étais dans un quartier sudiste où c'était encore d'autres langues, le Sahara, le Gambay, des choses comme ça. Et en fait, c'est chaque langue a son... C'est une vision du monde, en fait, une langue. Et du coup, c'est enrichissant, bien sûr, de... Alors, les langues du Tchad, je les connais pas. Je connais juste quelques insultes parce qu'il fallait savoir repérer quand je me faisais insulter. Mais sinon, la langue du Centrafrique, le Sango, je la parlais très bien. Et c'est vrai que c'est une richesse de pouvoir parler plusieurs langues et de pouvoir appréhender et goûter, en fait, juste se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui voit le monde différemment de nous, quoi. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est plutôt à voir comme une richesse.
D'ailleurs, j'ai remarqué que sur les autres albums, tu chantes des fois en sango, tu mélanges le français et le sango, et sur celui-ci, plus du tout.
Ouais, c'est une remarque que je me suis faite en finissant l'album, effectivement. J'ai pas chanté en sango sur cet album.
C'était un choix ou tu...
C'est pas un choix, ça s'est trouvé comme ça. Après, l'Afrique est présente autrement, parce que je parle de choses, notamment le titre étranger, là... C'est le titre d'une des chansons, ça parle de ça, ça parle de l'Afrique, enfin du fait d'être étranger, de mon expérience. Il y a un autre titre qui s'appelle Histoire où je parle aussi de d'événements. Donc l'Afrique est présente dans les histoires et dans les thématiques, dans la rythmique, dans la musique. Mais effectivement, j'ai pas utilisé le sango sur cet album. Ça s'est trouvé être comme ça. Quand je chantais en sango dans les albums précédents, c'est parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à exprimer en français et donc je préférais utiliser une autre langue pour le faire. Ça faisait appel à des choses plus anciennes en moi, voilà, à l'enfance, etc. Donc j'utilisais le sango pour le faire. Le français pour moi est quelque chose de plus intellectuel. Était pour moi quelque chose de plus intellectuel. Et en fait, je pense que sur cet album, j'ai peut-être réussi à comprendre le français un peu plus viscéralement, je sais pas, à le vivre un peu plus viscéralement et du coup à pouvoir m'exprimer avec juste en français. Après, je reprendrai le sango déjà sur scène, je continue à l'utiliser. Peut-être que dans les prochains albums, je l'utiliserai encore sûrement. C'est pas vraiment un choix de ma part, là. C'est une constatation une fois que l'album est fait.
D'accord.
Tu peux nous parler un petit peu de Sommet ? C'est le premier clip qui est sorti ?
Ouais, c'est le premier extrait que j'ai mis en vidéo. Le texte, à la base, c'est un texte de Claire, de ma femme, qui est à côté de moi et que vous entendrez tout à l'heure parler de son spectacle. C'est un poème qu'elle a écrit et que j'ai adapté et que j'ai mis en chanson. Pour le texte, c'est ça. Après, sur le clip, c'est j'invite les gens à aller le voir, évidemment, mais c'est aussi pour moi une. J'utilise les images. Je fais de la musique. J'aime écouter les choses et entendre et faire du son, faire de la musique, écouter des textes, de la parole. Et l'image a toujours été un peu. J'ai toujours eu du mal à l'appréhender. Et du coup, quand j'utilise l'image, j'ai toujours besoin de détruire l'image, en fait, dans ce que je fais. Et c'est ce que je fais dans le clip. En fait, tout le long du clip, je construis une image de moi que je détruis à la fin. Je dis pas comment, il faut que les gens aillent voir.
Alors, effectivement,
oui, faut aller voir,
on voulait pas
spoiler
la fin du clip.
C'est particulier, oui.
On voulait quelques explications, quand même.
Voilà. Donc, l'aspect visuel, c'est ça. Après, je travaille beaucoup. En plus, sur ce titre en particulier, j'ai beaucoup travaillé avec Claire. Et la fin est son idée, je tiens à le préciser.
Il va falloir qu'elle s'explique alors.
parce que je lui disais ouais c'est cool, je construis une belle image, mais j'aimerais bien détruire ça à la fin, comment faire, enfin en tout cas poser une question, etc. Et puis du coup on a discuté, c'est ça qui est sorti.
Tu as quelque chose à nous dire à ce sujet ou pas?
Ouais, je pense qu'il faut que je parle là.
Oui, vas-y.
Mais les gens savent pas ce que c'est, il faut qu'ils aillent voir.
Par contre, effectivement,
sans dire la fin, effectivement.
Oui.
C'est vrai que dans le travail avec Isaac, on échange beaucoup et sur divers tons, et des fois il y a de l'ironie, des fois il y a de l'humour, des fois il y a, je pense que, en tout cas moi je le vis comme ça, on se répond des fois entre nos vies intimes et nos façons de transcender ce qu'on veut vivre à travers les histoires qu'on raconte, que ça soit par les clips, les chansons ou les contes, les romans. Le clip d'Isaac est arrivé à un moment donné de notre vie aussi où il y avait une particularité, un tournant qui est que, en tout cas pour moi, c'est poser cette question. Isaac rentre dans un domaine public où l'image est très forte et où cette image doit être vendeuse, doit être belle, doit être presque à la perfection. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette image? Et du coup, dans le clip, puisque je joue aussi avec Isaac dans le clip, je me suis dit, j'en fais quelque chose. Mais je peux pas dire le clip, donc,
donc
je m'arrête là. Mais en gros,
raconter.
c'était aussi cette idée de me dire, en tout cas, il y a l'image et puis il y a la personne et puis voilà ce que je fais de l'image.
Alors donc effectivement, on va pas raconter le scénario du clip. On invite tout le monde à aller le regarder donc sur YouTube. Mais par contre, en t'écoutant nous donner cette explication-là, en vous écoutant nous expliquer ça, on a l'impression que vous avez eu envie de faire un petit peu un contre-pied à ce qu'on demande aux artistes d'être aujourd'hui en termes de visuel, d'image donc, et de paraître et de rendu, quoi. On a souvent l'impression que les artistes sont canalisés, on veut les faire rentrer dans certaines cases. Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de contre-pied que vous avez voulu...
Si, complètement. Après, pour répondre encore plus franchement à ta question, il faudrait aller voir le deuxième clip.
on va en parler.
Oui, oui. On passera le morceau, tout à fait.
En fait, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'image, c'est pas quelque chose qui est... L'image, c'est une illusion. C'est quelque chose... Enfin, avec les images, on est dans... Pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, et c'est du spectacle. Et c'est très bien. Voilà, le spectacle, c'est bien. Ça permet de poser des questions, ça permet de cacher des vérités, ça permet de, voilà. Mais faut pas prendre des vessies pour des lanternes, en fait. C'est un peu ce que j'essaye de dire avec mes clips où toujours il y a une idée de, cette idée qui revient d'iconoclasme et du fait qu'une image, On en a besoin, on en a, ne serait-ce que les mots en fait sont des images. Quand je te parle d'une table, en fait, si tu vois pas la table en question, t'as ta propre image de la table qui peut être différente de la mienne. Mais on a besoin des mots pour communiquer. Mmh. On a besoin des images pour comme médium entre nous. Et on en a besoin, c'est utile, c'est il les faut, etc. Mais c'est pour moi intéressant de toujours les remettre en question. Et dans les clips, c'est ce que j'essaye de faire. Avant, j'ai pas toujours fait mes clips. Au tout début, c'est quelque chose que je maîtrisais vraiment pas. La technique de l'image, les caméras, etc. Donc, j'ai fait faire par des copains ou des gens dont c'était le métier. Enfin, j'ai toujours eu envie d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à... En fait, j'arrivais pas à dire à la personne qui faisait l'image ce que ouais. je voulais, ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire moi-même les images. Donc, j'ai commencé à mettre le nez dans les matériels, etc. Et depuis ce moment-là, à chaque fois que je fais un clip ou sur mes chansons, en tout cas, c'est pour soit faire un contraste, soit pour accentuer un point de la chanson, soit pour justement être vraiment un contre-pied, en fait, de l'utilisation habituelle qu'on fait des images. Voilà. J'aime pas faire de l'illustration, en fait. C'est vraiment pour... ouais, c'est de l'iconoclasme. J'utilise les images pour les briser entre elles et puis susciter d'autres choses et... Alors forcément, il y a d'autres images qui se créent derrière, mais c'est jamais final. Et mon but n'est pas d'ériger une image de moi ou quoi que ce soit comme quelque chose à suivre ou comme quelque chose qui va être figé en fait et que les gens vont pouvoir se repérer par rapport à ça.
Donc tu te sens libre quand tu crées tes vidéos. Est-ce que tu n'as pas de la pression de l'extérieur qui t'oriente ou tu restes complètement libre?
Moi, non, je peux pas dire que je suis libre. Non, il y a plein de choses qui font que. Alors, j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de producteur qui me dit tu t'habilles comme ça, tu fais ça, tu vas là, tu joues avec telle personne, etc. Mais on a forcément des limites. Après, c'est bien aussi, voilà, il faut un cadre et les limites, c'est bien parce qu'on peut jouer avec. Je peux pas dire que je suis libre. J'ai peut-être une plus grande liberté que certains dans certains domaines sur les créations des clips ou des chansons, mais il y a des limites que je me fixe, c'est clair.
D'accord. Alors, je vous propose, avant de continuer cette conversation, de faire un petit break musical. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la Centrafrique, de l'Afrique en général, je vous propose de passer la chanson « Étranger ». Isaac, qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, ça me semble parfait, ouais.
Allez, c'est cool. Un étranger
scénario. Je suis un exilé, le fils d'homme. Je suis un étranger d'un autre royaume. Je suis un exilé.
Eh bien, je vous propose de revenir rapidement à ce qu'on disait un petit peu avant de diffuser la chanson « Étranger ». Je voudrais revenir, si tu veux bien, sur le constat d'échec que tu fais sur ton blog. Puisque donc on parle de la place de l'artiste, la place qu'il veut prendre, la place qu'on veut lui donner, l'image qu'il aimerait avoir, l'image qu'on lui demande d'avoir. Un cri d'alarme, un cri de colère, un constat d'échec.
Ouais, donc tu fais référence à un article que j'ai écrit sur mon blog.
Oui.
Déjà, il y a un point d'interrogation à cette sur ces deux mots mis côte à côte. Mais, ouais, constat d'échec,
exactement,
c'est avec un
oui.
point d'interrogation.
Exactement, oui.
Et je laisse la question ouverte, c'est-à-dire que d'une certaine part, si je regarde les choses en face, sur certains points, oui, il y a une certaine forme d'échec dans ce que je voulais faire, dans les objectifs que je me suis fixés, et puis des choses que je n'ai pas atteintes. Mais
est-ce que tu penses que c'est de ton fait ou du fait d'autres intervenants?
Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Il y a des choses qui se passent, il y a un contexte, et puis après, il y a les décisions qu'on prend et la façon dont on réagit. Pour moi, c'est important que ce soit une question parce que je pense que c'est pas... C'est vrai qu'il faudrait que je développe un petit peu, mais pour moi c'est pas j'ai pas envie de répondre par l'affirmative à cette question, c'est-à-dire que il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus. Je parle en fait du contexte où nous les musiciens indépendants, dans le contexte dans lequel on évolue avec l'industrie du disque et de la musique qui s'est complètement transformée, notamment à cause du numérique ou grâce au numérique suivant quel côté on se place, et aux réseaux sociaux en fait. Je m'interroge sur la façon que les possibilités que les musiciens et les chanteurs ont de porter leur musique aux oreilles des auditeurs.
Oui.
Et c'est en fait, moi je suis parti de la musique, mais c'est valable pour tout le monde. En fait, suite à cet article, il y a plein de gens qui ont réagi dans des domaines, même des artisans en fait, des oui. gens qui font des choses à manger ou qui savent pas comment juste présenter ce qu'ils font, noyés dans la communication de oui. masse dans laquelle on vit. Il faut payer pour être vu,
c'est ça,
il
oui.
faut payer pour être entendu, etc. C'est ce que je dénonce dans oui. le dans
avec le, les réseaux aussi.
Voilà, non, avec notamment, on va pas le nommer,
non, mais
on aura compris.
Mais après, suite à l'article, j'ai eu des grosses discussions avec pas mal de gens. Je pense que du coup, ça nous fait aussi réaliser l'importance des réseaux locaux, de la réalité des gens qui sont autour de nous. Et moi, je fais de la musique d'une façon assez artisanale. Ça m'intéresse pas, moi, de mettre de l'énergie ou de l'argent dans de la communication. Je préfère mettre ça faire de la musique, des concerts, etc. Donc du coup, même si je l'ai pas dit dans l'article lui-même, ça ressort quand même pour les gens indépendants. L'importance de la proximité et du contact direct avec les gens est capitale, en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est sur le fait que, oui, il y a des gens qui payent des fortunes pour que leurs clips soient vus des millions de fois, etc. Mais bon, voilà, nous, on fait pas la musique pour ça, juste pour être vu. On fait la musique pour rencontrer, pour accompagner des émotions. Et en fait, ça, on peut le faire à n'importe quelle échelle, en fait. C'est juste qu'il faut relativiser, en fait, les buts qu'on se donne et, voilà, faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Et
est-ce que tu as le sentiment, par exemple, pour l'album Paradoxe là que tu viens de nous présenter aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il est plus difficile au jour d'aujourd'hui d'en faire la promotion que ce que ça aurait pu être il y a quelques années en arrière avec tes albums précédents?
Moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile dans mon cas parce que je suis pas un grand fan des réseaux sociaux et de ce type de communication pour des gens qui arrivent dans le business de la musique aujourd'hui, parce que c'est quand même du business dont il
oui,
s'agit.
Oui.
Voilà, pour les nouveaux, ceux qui arrivent, c'est peut-être plus simple parce que, voilà, quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, il maîtrise complètement les réseaux sociaux et.
D'accord.
Et en fait, c'est naturel pour lui de communiquer avec ça. Moi, c'est pas naturel. Je suis arrivé dans la musique et dans le son au moment où tout changeait, au moment d'iTunes, etc. Mais du coup, j'ai appris et j'ai appris à jouer, j'ai appris à faire de la musique, j'ai appris à faire du son avant ça.
Ouais.
Et du coup, je trouve que, voilà, pour moi, c'est compliqué. Effectivement, hein, ne serait-ce que très concrètement sur le nombre de vues de clips, je faisais mieux avant, c'est clair, quoi. Alors que je considère que mon discours est pas forcément moins bon qu'avant, ma musique n'est pas moins bonne, mais simplement les moyens de diffusion ont changé et moi je les maîtrise pas. C'est le cas de plein de gens. Après, je pense que justement ces réseaux un peu indépendants sont en train aussi de s'organiser. Il y a iTunes et le streaming qui ont fait énormément de bouleversements. Là maintenant, donc pendant des années, les maisons disques fermées, les studios fermés, les artistes arrêtés. En France, on a l'intermittence du spectacle. J'ai plein de collègues qui ont arrêté ce statut parce que voilà, ils pouvaient plus simplement. Les salles de concert fermées. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin de cette spirale descendante et puis on a peut-être touché le fond et puis on s'est en train de se réorganiser en fait. Ouais. Les indépendants se réorganisent, voilà, pour essayer de trouver des nouvelles façons de faire. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, donc autant utiliser ce qu'il y a. L'article lui-même est pas. Je pense qu'il faut pas avoir d'illusions sur le fait que c'est compliqué, que Internet nous donne l'illusion qu'on peut toucher 4 milliards de personnes dans le monde instantanément. Bon, c'est théoriquement c'est vrai, mais en fait dans la pratique c'est pas possible. À moins que tu mettes je sais pas combien de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros pour en publicité, ouais, en sponsoring, etc. Mais voilà, une fois que t'as compris, tu fais autrement quoi. C'était une vraie question. Et puis je pense que en tout cas pour moi cette question elle était là aussi pour discuter avec les gens, pour voir s'il y en a qui ont des idées, et il y en a qui ont des idées, donc voilà, il faut avancer.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler du titre Histoire? J'ai trouvé original avec les mots.
C'est un morceau assez particulier effectivement, il est déjà musicalement il est pas commun, il est en 5 temps, donc ça tourne. C'est, voilà, les musiciens, moi je fais la guitare, mais David et Alexandre qui fait les batteries et les basses collent à ce riff de guitare et ils collent très bien et ça donne, ça tourne, ça groove bien, mais c'est en 5 temps, donc il y a déjà quand même quelque chose qui est à l'oreille, même pour les non-musiciens, qui est un peu déstabilisant. Faut aller l'écouter, mais il y a une jeune fille qui parle, en fait, et c'est pas des phrases, cette chanson c'est pas des phrases, je fais pas de vers, c'est même pas de la prose, c'est juste des mots qui sont scandés. La voix est un peu saturée. En fait, pour moi, l'idée de ce titre, donc c'est toujours dans l'histoire de mon personnage Anna, là, dont je parlais tout à l'heure, qui fait le fil conducteur de l'album. C'est son départ, son exil. Et sur ce titre, c'est peut-être le moment le plus flagrant, parce que évidemment, j'ai un personnage avec une histoire de fiction, mais il y a beaucoup de choses de moi dans cette histoire. Et sur ce titre particulièrement, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait. Donc c'est pour moi l'idée de retranscrire un épisode que j'ai vécu quand j'avais 13 ans, où j'étais au Congo. C'était en juin 97 et il y a une guerre qui a éclaté en fait, une guerre civile alimentée par la France notamment pour des raisons de pétrole. Et en fait on a été rapatriés, on a été évacués, on a été 5 jours dans les combats. Et un jour on a été évacués en char de chez nous et en fait on a dormi dans un camp. Donc le titre Histoire dont je parle de ça, et en fait il y avait... J'ai aucune notion des grades, mais un gradé de l'armée, en fait, qui gueulait ses ordres dans un mégaphone, comme ça, en mode... c'était très sympa. Ils étaient là pour nous sauver et pour nous exfiltrer, tout ça.
Ça doit marquer, quand même, hein.
Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a écouté... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en écoutant le titre, qu'ils trouvaient ça violent. C'est pas que ça gueule, que c'est des insultes, etc., mais dans ce que ça dégage. Et en fait oui, c'est quelque chose qui était violent, que j'ai voulu retranscrire aussi comme ça. C'est violent parce que ça parle d'exil et en fait du fait d'être déraciné, d'être exilé, d'être déchiré, d'être sorti de là où tu es brutalement, et puis après de ce qui se passe, de ce qu'on peut faire une fois qu'on a vécu ça. Et pour moi, il s'agit encore une fois de pas nier la réalité et le désespoir que mon personnage traverse là, mais simplement ce désespoir et la violence de ce désespoir, de ce désespoir jaillit en fait une espérance aussi violente, un peu plus violente puisqu'elle prend le dessus que le désespoir qu'il a engendré. Donc voilà, le titre est assez particulier, c'est très lié à mon histoire personnelle effectivement. C'est quelque chose dont j'ai du mal à parler, parce que voilà, c'est effectivement très viscéral. En plus, j'étais enfant, donc il y a plein de choses que j'ai vécues, dont je me rappelle avec le filtre et les yeux et les oreilles d'un enfant. Le fait de pouvoir le chanter, c'est une façon de pouvoir l'exprimer, en fait. C'est ma fille de 12 ans qui chante dessus, en fait, qui fait la voix.
On allait te poser la question.
Voilà. J'ai souvent entendu que les traumatismes se transmettaient, en fait, de génération en génération. Et j'aimerais transmettre quelque chose d'apaisé, en fait, pas le traumatisme brûlant et pas le poison, en fait, du traumatisme, mais dire qu'il a été là, voilà, il s'est passé ça, voilà, en la faisant participer à ça, en la faisant chanter les mots, en lui expliquant qu'elle l'est comme héritage, mais comme une force et pas comme quelque chose qui la ronge, quoi.
Qu'on puisse passer par-dessus.
Voilà.
Ben moi, je vous propose d'écouter le morceau.
Eh ben, c'est parti.
C'est cool.
Thank you. départ, tristesse, larmes, perte, déchirure, abandon, effroi, bouleversement, cri, rage, désespoir. Destruction, vide, néant, séparation, chaos, fugitif, désolation. Chassé, traqué, exilé, forcé, plus jamais. Question, migration, pourquoi ? Chercher, errer, choisir, périple. Silence. Humain, trop humain. Subir, émigrer, fuir, s'expatrier, disparaître, abandonner, laisser tomber, périr, pleurer, désespérer, s'effondrer. Pourquoi ? Choisir. Inconnu. Où aller ? Solitude. Espoir. Vertige. Liberté, se relever, reconstruire, amour, nouveau, ensemble, renaître, paix, refuge, exploration, découverte, chaleur, approche, progression, avancée, bourgeon, douceur, vivre, sens, repère. S'approcher, espérance, humain.
Le titre « Pour qui ?», c'est un cri ?
Ouais, c'est pareil, c'est une question. C'est pour qui tu te prends, en fait. Il faut le prendre sur le ton de l'humour. C'est pour qui le refrain, voilà. Pour qui tu te prends ? Il y a des gens qu'on croise souvent, enfin souvent, moins souvent, mais des gens qui pensent qu'ils n'existent que par la domination qu'ils exercent sur les autres. Voilà, c'est juste de leur faire signe que bah, y en a qui sont pas forcément d'accord avec ça. Et puis sans oublier que des fois, c'est nous qui sommes dans la position de l'orgueilleux et de celui qu'on voudrait faire dégager pour d'autres personnes. Donc du coup, voilà, c'est un peu... C'est un riff un peu rock, c'est de l'humour. Et après, c'est pareil, ça fait partie de l'histoire de mon personnage qui rencontre des personnes, qui rencontre des gens qui abusent un peu de leur pouvoir.
Isaac, est-ce que tu veux bien nous présenter rapidement les intervenants, les musiciens qui jouent avec toi, qui ont participé à l'enregistrement ?
Bien sûr, ouais. Bah, les musiciens, déjà, j'ai cité leur prénom tout à l'heure. Il y a David Gray à la batterie. Je travaille avec lui depuis 2009, je crois. Le premier concert que j'ai fait avec lui, c'était en 2009. Donc, c'est un ami. Il a participé à tous les albums que j'ai fait. Il est à la batterie, voilà. Alexandre Arnaud à la basse. Lui, ça fait, je pense, 3 ans. L'album sur lequel il est arrivé, c'est Vertige. Peut-être Vivons, même. Dès qu'il est devenu un ami aussi. avec sa famille et tout ça. Donc voilà, Alexandre et David pour les musiciens. Après, il y a Frédéric Flore qui a fait le mastering, ouais. Donc qui a apporté la touche finale au son de l'album. Fabien Sanchez qui a fait le graphisme de la pochette, qui est aussi un super musicien et grand artiste graphique aussi. J'ai collaboré pas mal avec Claire sur les textes. Voilà, il y a plusieurs textes qu'on a écrits ensemble. Il y en a comme Sommet, où je suis même parti d'un de ces textes à elle pour faire la chanson.
Du coup, est-ce que je peux vous demander à tous les deux, votre collaboration en termes d'écriture, elle se passe comment?
Tu veux parler?
Alors là, ils se regardent.
Ouais, je parle. Non, bah après là, sur la collaboration sur les albums, là, j'avoue que c'est quand même moi qui ai la main.
Ouais.
Ça dépend. Là, comme j'ai dit, Sommet, c'est carrément un texte à elle que j'ai pris et que j'ai adapté. Après, la plupart du temps, moi, j'écris des bribes de... Parce que j'ai quand même, sur mes albums, j'ai quand même des thèmes et des choses que je veux aborder et que... Avant d'écrire l'album, j'ai posé, en fait, ces choses-là, je les ai posées et du coup, soit j'ai commencé à écrire et elle apporte certains éléments ou elle écrit carrément un texte et puis moi, je reprends comme une matière première que je réadapte. Ça dépend un peu, en fait, ou alors elle corrige juste, elle relit mon texte et elle me dit, ah là, cette phrase-là, ce serait peut-être mieux avec comme ça ou alors tu changes ça. Enfin, en fait, ça dépend vraiment des fois des textes et du moment aussi du temps qu'on a parce que des fois elle est aussi occupé sur ses propres
aussi, oui.
Voilà, sur ses propres projets à elle, donc du coup voilà, c'est pas vraiment, on n'a pas un process qui est bien défini, en fait.
On peut également préciser que tu as une invitée sur la chanson Océan.
Effectivement, Obed Rajaya, qui est un super musicien lyonnais avec qui j'avais bossé sur des productions au studio qui étaient pas pour moi, et en fait voilà, j'ai beaucoup apprécié le personnage et sa musique, en fait, sa musicalité. Donc là, ouais, je lui ai demandé de faire un violoncelle, ouais. sur ce titre. Il y a pas de texte sur ce titre.
Studio d'enregistrement, donc c'est le tien, Seven RTS.
Ouais, c'est le mien. C'est une boîte. On est plusieurs associés, mais c'est moi qui m'en occupe. Ouais, on a monté la boîte en 2007. On faisait principalement de la sonorisation au début, et puis petit à petit, moi j'ai développé le studio. La boîte est dans des locaux qui permettent d'avoir un bel espace pour les prises de son et tout ça. Donc du coup, j'ai développé ça. Ouais.
Avec ce studio, il y a un collectif aussi. Tu as travaillé avec le collectif pour l'album ou tu as travaillé seul?
En fait, autour du studio, on est un petit groupe de personnes à être régulièrement là et à collaborer sur des différents projets. Alors, il y a des gens qui font de la vidéo, des musiciens, des ingé-sons, des graphistes. Il s'est trouvé que depuis quelques années, sur pas mal de projets, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Pas tous toujours ensemble, mais les uns avec les autres, 2, 3, 3, 4, etc. Et tous, on a plus ou moins des projets aussi personnels. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être bien d'avoir une vitrine commune pour partager aussi les projets que chacun en fait individuellement et faire aussi des projets ensemble. Donc là, effectivement, le collectif, c'est les principaux membres actifs sont des gens qui habitent autour de Valence et qui sont autour du studio. Donc ça gravite pas mal autour du studio. Après, par exemple, pour l'album Paradox, les musiciens en font partie. Après, celui qui fait les clips, là, Thomas Vanieux, celui avec qui j'ai fait les clips, en fait partie aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est... en fait, on n'est pas lié à ce collectif. On n'est pas obligé de tout faire avec le collectif, etc. Mais c'est une vitrine qu'on a en commun pour faire certains projets. Et puis surtout, le fait de savoir que sur des projets importants, on a une équipe de collègues avec qui on s'entend bien, avec qui on a des affinités et des façons de travailler qui sont efficaces, avec qui on peut mener les projets. Donc voilà.
On va te retrouver en concert à la sortie de ton album. Tu vas être en trio, en solo, avec les mêmes instruments qu'auparavant.
Ouais, habituellement sur scène, je suis en trio avec les deux musiciens, avec David et Alex, qui sont sur l'album. Là, les dates qui viennent, il y aura le 9 novembre à la FNAC de Cré. Là, je serai tout seul parce que c'est un petit showcase. Et après, je fais un concert de sortie nationale le 14 novembre à la Dame de Canton à Paris, où on sera en trio, là, cette fois. Et après, il y a des dates en Dromardèche à partir du mois de février. Je vais être à Tain-l'Hermitage, à Rompon, à Tournon. Et les dates qui commencent à rentrer sur 2020.
Ton actu, on la suit sur ton site?
Ouais, isaacbonaz.fr. Il y a tout. Quand les clips sortent, je les mets là. Les dates sont là aussi. Il y a des extraits audio, vidéo, etc. Des extraits de concerts. Il y a mon blog aussi. Après, les gens peuvent me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai des comptes ou des pages sur les principaux. J'invite les gens à s'inscrire à la newsletter sur le site parce que c'est en général quand il y a des infos nouvelles, je les diffuse d'abord avec la newsletter avant de le faire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les gens peuvent me trouver assez facilement et puis suivre ça.
Il y a un second clip sur YouTube qu'on peut voir qui s'appelle Absent. Tu peux nous en dire deux mots?
Des questionnements, des doutes, choix.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a suscité pour vous? Comment vous l'avez lu?
On parlait tout à l'heure de ta manière et ton envie parfois de vouloir briser l'image. Alors, on va pas spoiler, mais là, c'est pareil, j'invite les gens à aller le regarder.
L'idée, en fait, c'est, je parle d'absinthe. Et l'absinthe, on a tous un peu une idée, c'est un espèce de mythe, hein, je pense en France, hein, parce que c'est quelque chose qui a été chanté, mis en vers, etc., par un certain type de poète, voilà. Et donc, il y a toute une légende autour de ça, la proximité de la folie, c'est un alcool fort, donc il y a l'ivresse, j'ai voulu jouer avec ça, avec cette image-là. J'écris l'ivresse et la tentation que l'absinthe peut être. C'est comme si, comme un ivrogne devant son verre d'absinthe. Et le fait que la tentation, c'est une des phrases de la chanson. Je pense que la tentation dépouille, en fait, de toute illusion morale ou face à la tentation quand elle est vraiment là. On peut pas appeler au secours un ordre supérieur ou une loi. Enfin, voilà. La tentation dépouille de ça et à un moment donné, il faut juste choisir. De boire ou pas boire le verre et puis de le boire une fois, de le boire deux fois, de sombrer, de faire ça avec modération ou pas, enfin de se laisser aller.
De recommencer ou pas.
De recommencer ou pas.
Parce que, je te coupe, mais c'est vrai que j'invite les gens à se faire leur propre avis quant à l'image, quant au film, pour le coup.
Donc pour le texte, en tout cas, c'est ça. Et après, pour l'image, je me mets moi-même en danger, pour le coup, puisque c'est la première fois que je fais ça. Je joue dans le clip un ivrogne et puis voilà, donc après pour le reste j'ai envie, il y a une façon de tourner le clip et de le mettre en scène qui traduit j'ai voulu traduire l'ivresse et la perte de repère. On sait pas trop au début ce qui se passe
exactement,
comment c'est tourné, on sent que c'est bizarre dans les mouvements tout ça, mais on sait pas trop pourquoi, puis après on comprend, c'est la perte de repère. Et j'ai voulu et puis comme je disais tout à l'heure, dans Sommet, le premier clip que j'ai sorti, il y avait une image bien propre, bien faite de moi. Et puis là, dans Absinthe, ça part un peu en live, quoi.
Eh bien, on va l'écouter.
Absinthe douce, amère, tu troubles mes repères. Absinthe douce, amère.
Ton
Ton parfum m'électrise, des effluves me grisent, tu mélanges mes esprits. Yeah. Mes murailles s'effondrent, ton appel me fait fondre, mes efforts ont péri. Dépouillé seul reste mon choix, absinthe douce, amère. Mes repères, oh absinthe douce amère, tu troubles mes repères. Hey. Les sermons des églises, les leçons, les sentences ne sont d'aucun secours. Et ton désir m'attise, tu révèles mes faiblesses, je n'ai plus de recours. Dépouillé seul reste mon choix, absinthe douce amère, tu troubles mes repères.
Voilà, donc sortie de l'album le 8 novembre.
C'est ça, le 8 novembre. Je ne suis pas encore sûr, il y aura peut-être un troisième clip autour de ça. Peut-être même pour sortir quelque chose qui ne serait pas un clip, mais autour de l'histoire d'Anna, justement, qui fait le fil conducteur de l'album. Mais en tout cas, il y aura un truc autour du 8 novembre, soit un clip, soit, voilà, soit quelque chose, un document audio ou visuel, je ne sais pas encore, autour de l'album.
À suivre, donc.
Voilà.
Et on peut te demander qui est le personnage Anna ? Qu'est-ce qu'il représente ?
Anna, c'est de l'hébreu et ça veut dire grâce. Le titre qui ouvre l'album s'appelle Grâce. Dans les paradoxes qu'on vit, justement, dont je parle dans tout l'album, je pense que le seul élément qui permet de pas exploser, de pas, juste de vivre, en fait, c'est la grâce. Donc, la grâce, c'est quelque chose d'assez vague, c'est un concept un peu spirituel, etc. Il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la liberté, enfin, il y a plein de choses dedans et, je trouve que c'est, voilà, j'ai voulu parler de ça. Donc, Anna signifie grâce. Voilà, j'ai voulu parler du paradoxe et de la grâce dans l'album. J'ai fait ce personnage qui est la grâce personnifiée et qui traverse des choses et donc tout ce qu'elle traverse à plusieurs moments. Du coup, il y a une chanson qui sort de ces moments-là et comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de choses que j'ai vécues ou que j'ai vu vivre autour de moi ou des questions que je me suis posées. D'avoir ce personnage, ça m'a permis de prendre une certaine distance et de dire des choses qui ne sont pas forcément toujours liées à moi, mais en même temps, c'est moi, quoi.
Isaac, merci d'être venu nous présenter ton album.
Ben, je vous en prie.
Y a-t-il un dernier sujet qu'on aurait oublié d'aborder, que tu aurais aimé voir, ou est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui ?
Bah, j'espère qu'on n'a pas fait le tour parce que sinon les gens ils vont pas aller écouter. Mais
ah non, alors il faut que tout le monde aille écouter.
Non, puis il y a d'autres titres qu'on n'a pas parlé qu'il faut écouter aussi.
Non, on n'a pas fait le tour, mais on a déjà fait un bon bout de chemin sur l'album là. Donc
ouais.
Non, c'est cool. Merci à vous.
Mais merci à toi.
Merci Isaac.
J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. L'horizon s'abaisse enfin, mon regard saisit l'immensité. Le monde et ses confins, le silence et son intensité. Oh, j'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. L'océan et son écho brûle, mes hurlements sont impuissants. Le vent et le sable ondulent, leur éclat est assourdissant. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. Oh, j'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. Oh, j'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. Le répit semble s'écarter dans cette errance qu'il faut dompter. Le cri d'un homme révolté face au tout autre qui se tait. Oh, j'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. S'offre à mes yeux, j'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux. J'espérais la paix, la solitude s'offre à mon âme. J'espérais une trêve et l'infini s'offre à mes yeux.
On va donner un petit peu la parole à Claire avant qu'elle s'en aille quand même. On va la remercier pour sa patience.
Ah mais pas de problème, j'écoute.
Et donc Claire, tu vas nous parler de ton spectacle Claire de Peau.
Oui.
Et peut-être avant de te présenter un petit peu.
Oui, alors je m'appelle Claire Bonaz, je suis conteuse depuis un an. J'écris aussi, du coup j'ai écrit un roman qui s'appelle Le raffut des hirondelles et qui est sorti en 2016. J'écris un second roman qui est en cours de retravail. Et maintenant, je travaille pas mal sur le conte et j'ai un spectacle de conte qui s'appelle Claire de Peau, qui parle surtout des femmes. Ces contes-là tournent autour de personnages féminins très forts. C'est forcément, je suis une femme et du coup, je suis assez touchée par les histoires, les récits de femmes. ces 5 contes sont issus des contes traditionnels. Ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que ces histoires, ces récits ont traversé les époques, les années et restent pourtant très modernes et très actuels. Et c'est une force, peut-être que l'humain, sans s'en rendre compte, se transmet de par son humanité, malgré les siècles qui s'écoulent, malgré les positions géographiques aussi, parce que ce sont des contes du monde entier. Et je trouve qu'en travaillant le conte et en préparant ce spectacle, on est à la fois porté par une parole qui n'est pas mienne, et pourtant elle s'associe avec ce que je suis moi. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe quand je raconte les histoires qui me dépasse, que je maîtrise pas du tout et qui... Je pense, j'imagine, que cette force vient du fait que ce sont des contes traditionnels. C'est pas une histoire que j'ai écrite, inventée. C'est quelque chose que pour laquelle je donne juste une voix. En fait, puisqu'on n'est pas dans l'écrit, je donne juste une voix. Moi, je suis juste là, une voix, mais ça donne vie à l'histoire et ça, voilà.
Et comment tu choisis tes contes par rapport à ton histoire, tes voyages?
Pas forcément, parce que, enfin, les voyages qui m'ont plus imprégné et tout ça, c'était les voyages en Afrique. Et étonnamment, sur les 5 contes, il y en a qu'un qui se passe en Afrique et il y en a 2 qui sont issus des Inuits. Et avant de travailler autour de ces contes-là, je connaissais rien aux Inuits. C'était pas de cœur, c'était pas en soi une culture vers laquelle j'allais découvrir. J'avais pas spécialement de curiosité pour cette culture, mais leurs histoires sont particulièrement fortes et elles ont un aspect étrange, mystique, qui m'a interrogée actuellement dans ma vie, là, au XXIe siècle. Enfin, comme, je sais pas, un paradoxe, quelque chose qui s'est mis, parce que la culture inuite est très chamanique et très, très magique. Et du coup, dans les contes, ça transpire et pourtant, je les ai trouvés très, très actuels. Et puis, ça m'a parlé à moi, ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas mon histoire. Ça m'a parlé, mais c'est pas mon histoire.
Oui, mais c'est vrai que c'est prenant. Dès le premier conte, j'étais captivée.
Il faut venir écouter.
J'ai quand même une question, moi, qui me vient, on va dire, en tant que novice. On apprend à devenir conteuse? C'est comme ça qu'on dit d'abord, conteuse?
Oui, on dit conteuse. Conteur, conteuse.
Conteur, conteuse.
Oui, je pense que ça s'apprend. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait une petite formation, en temps, c'est qu'elle était, elle durait sur 10 mois, avec des conteuses qui... On était là en situation, c'est-à-dire qu'on arrivait avec un conte nouveau qu'on devait raconter. Et donc, il y a effectivement ce qu'on va appeler des techniques quand on travaille l'oral, c'est qu'on s'éloigne le plus possible de l'écrit. Et l'histoire, ça s'inscrit dans l'oralité, dans la parole. Et c'est pas du tout une histoire qu'on lit. On se détache de la lecture et quand on travaille pas sur un texte lu, on travaille pas sur un texte par cœur, on travaille sur un récit oral. Donc on le dépouille, si jamais on le découvre en lisant, on le dépouille au maximum et on retient que la trame. Et on repart juste du squelette, on enlève tout, les habits, la chair, tout, on repart du squelette de l'histoire, juste ce qui se passe. On la retravaille, on remet de la chair, on remet des habits, mais ça c'est les mots, après c'est nous, et ça c'est l'oral.
Dans la façon de donner une couleur aux mots, on apporte une importance à la façon de prononcer les mots, l'intonation qu'on donne, la couleur qu'on donne aux mots, tout ça c'est pas qu'une question de...
C'est la première étape, c'est avec le récit, et l'étape après, quand on veut aller au-delà du récit, c'est-à-dire la présenter sur scène, il y a le travail de mise en scène, et il y a le travail de...
Et de ressenti personnel, la façon dont on veut faire passer le message.
Oui, oui, c'est travaillé. Tout ça, c'est
travaillé.
En fait, moi, je travaille avec une metteur en scène qui s'appelle Amandine Gitz. Et on travaille effectivement la restitution des émotions, le rythme de la parole qui est lent à certains moments, la véracité des émotions, le fil conducteur, l'harmonie entre le dernier conte et le premier conte, les temps de pause, quelques gestuels, parce que dans le conte, moi en tout cas, je suis partie d'une idée où je voulais aucun artifice au départ, je voulais vraiment que ça soit revenir à la voix et à la force juste du récit. Et donc il y a pas de lumière qui bouge, j'ai pas un grand décor qui transporte ou quoi, c'est vraiment posé sur la capacité de la voix et mon corps, parce que là je travaille avec mon corps et j'ai certaines gestuelles qui effectivement sont travaillées et poussées pour qu'elles trouvent sens et qu'elles viennent s'accorder au récit, qu'elles viennent donner des temps de pause pour le public, pour moi qui raconte, des temps où chacun peut se mouvoir dans l'histoire, dans le récit et le recevoir. Mais ça, c'est travailler. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une technique, c'est que je suis en face de quelqu'un qui me dit ça marche pas, on continue. Je présente les spectacles, je fais des retours. Elle me dit ça a bien réagi, ils ont pris comme ça. Les gens me font des retours, on me dit là, ça a été trop vite, là, c'était comme ça. En fait, j'inclus dans mon travail le retour du public. Le public, c'est pas une masse, c'est une personne.
Un intervenant, un peu.
Ouais, qui va me dire. Et en fait, mon spectacle, on dit de toute façon dans le conte, on dit qu'il faut avoir raconté l'histoire 10 fois avant qu'elle soit bien. Donc il faut l'avoir adressé 10 fois. On peut travailler dans son garage une année sans jamais l'adresser. Et à un moment donné, il faut l'adresser.
D'accord.
Et c'est dans l'adresse que le travail se fait aussi.
Oui, avec l'échange.
Oui.
Et comment tu es arrivée à être conteuse? C'était une passion?
Moi, j'aime beaucoup les contes. J'en ai lu beaucoup. Mais je me suis jamais posé la question d'être conteuse. Ça m'est jamais venu à l'idée. Et puis dans ma vie, c'est fait que j'ai arrêté de travailler. J'ai accueilli mon 5e enfant et du coup, j'ai pris une pause au niveau professionnel et je me suis posé la question de ce que j'allais faire maintenant. Et j'ai repensé aux contes. Effectivement, c'est ressorti et je me suis dit, mais peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est l'occasion de cette pause, de prendre ce tournant. En fait, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais j'ai pas eu vraiment de calcul. En fait, je me suis pas dit, je vais devenir conteuse. J'ai vu qu'il y avait une formation pas loin de chez moi. Je me suis dit, j'aime les histoires, j'aime les récits, je vais faire la formation, mais j'avais pas l'objectif. À ce moment-là, j'avais pas l'objectif, j'avais pas fait de plan, je m'étais pas dit, je vais faire un spectacle. J'ai dit, oh, chouette, je vais me confronter avec d'autres gens qui ont la même passion, la même envie, puis de raconter des histoires. Et puis alors au début, j'arrivais toute tremblante et puis je racontais mes histoires. J'en menais pas large et tout ça. Et puis assez vite quand même, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais c'était pas un calcul, c'était mais j'ai envie d'aller plus loin. Et puis alors au début, j'ai commencé à faire des exercices de voix parce que comme je suis timide, ma voix, elle portait pas. Et dans le conte, on n'a pas de sono. Sur scène, au maximum, on est toujours sur sa voix. On est vraiment au plus naturel possible. Et donc, du coup, il fallait pouvoir projeter sa voix et puis lui donner de la force, de l'émotion, de la fragilité, mais tout en maîtrisant quand même le volume sonore. Donc, au début, j'ai travaillé avec une comédienne. On a fait que des exercices de voix en parallèle de la formation. Et très vite, j'ai des contes qui sont ressortis, que je me suis mis de côté, que j'ai commencé à retravailler. Et puis, j'ai dit, j'y vais, je veux faire ça. Et puis, du coup, après, j'ai travaillé avec Amandine. On a fait 1 an de travail de mise en scène.
Donc ce spectacle, ces contes Claire de Peau, ça fait 1 an que tu travailles dessus?
Ça fait 1 an que je les propose. Fait 1 an que le spectacle, je le présente.
Donc c'est un spectacle qui est à partir de 8 ans?
Oui, il est surtout adressé aux jeunes et aux adultes. Je le propose dans les collèges, lycées aussi, où je propose des suivis de débats autour de certaines questions que peuvent susciter les contes que j'ai choisis. Sur la femme, sur les relations homme-femme, sur la discrimination. En même temps, le conte peut susciter plein de questions. On part en général du ressenti des élèves et puis on fait des débats et c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Ça fait sortir des choses que les élèves ne peuvent pas forcément parler en direct de leur vie à eux ou de questions qu'ils se posent et voilà. Après, moi, j'amène aucune réponse. Le conte, il n'amène pas de réponse. C'est pas une, y a pas de morale, y a pas de conclusion figée, mais c'est juste de soulever
des réflexions.
Des réflexions.
Tu peux nous en raconter un?
Ouais. Je vais vous en raconter un. Je vais vous raconter celui qui ouvre le spectacle Claire de Peau, que j'ai intitulé Inuk. Cette histoire se passe là où le froid est saisissant. Cette histoire se passe là où la nuit est interminable. Cette histoire se passe là où le froid est saisissant. Dans un village vivait un homme du nom d'Inuk. Inuk était un grand chasseur et un grand pêcheur. Grâce à lui, dans le village, personne ne manquait de rien. Il ramenait assez de viande pour nourrir tous les habitants du village. Il ramenait assez de fourrure pour habiller tous les habitants du village. Il ramenait même assez de graisse pour remplir toutes les lampes à huile du village. Personne ne manquait de rien. Inuk était très fort, très courageux, probablement un peu trop. Et dans le village, les gens le craignaient. Les hommes prétendaient de lui qu'il n'avait besoin de personne pour survivre. Et les femmes, celles en âge de se marier, lui prêtaient des amitiés avec des esprits fourbes. Il n'en était rien. Mais ce que tous ignoraient, c'est qu'Inuk souffrait de la solitude. La solitude alourdissait son cœur jour après jour. Souvent, le soir venu, Nuke allait se promener au bord de la banquise, là où les flots se brisent contre la glace. Ce soir-là, Inuk est allé se promener. Il a longuement marché sur la glace, puis il s'est installé contre un rocher. Il s'est assis, il a regardé le ciel étoilé, il a regardé la lune orange d'une nuit enflammée. Il s'est mis à rêver. Il s'est rêvé d'une autre vie. Il s'est rêvé d'une vie dans les bras d'une femme. Il s'est rêvé d'une vie à élever un enfant. Et pendant qu'il rêvait, des phoques se sont hissés sur la glace. Les phoques se sont redressés sur leur queue. Et les phoques ont ôté leur peau. Inuk est sorti de sa torpeur. Il les a regardés. Sous leur peau, c'était des femmes. Elles étaient tout juste habillées de leurs longs cheveux. Certaines les avaient argentées, d'autres roux. Une, d'un noir de jais. La plus grande des femmes a commencé à chanter. Alors toutes ont répondu à son chant à l'unisson, puis elles se sont décalées sur la banquise pour danser à leur guise. Leur peau blanche scintillait sur la banquise. Inuk était émerveillé. Il a senti à ce moment-là le poids de la solitude quitter son cœur. Il se sentait juste bien. Alors sans trop savoir pourquoi il a fait ça, il s'est levé. Il est allé en direction des peaux de phoque, il en a pris une, il l'a cachée sous sa parka et il est retourné derrière son rocher. Et toute la nuit, Inuk a regardé les femmes qui dansaient. Et toute la nuit, Inuk a écouté les femmes qui chantaient. Aux premières lueurs de l'aube, la plus grande des femmes a poussé un cri strident. Alors toutes sont retournées à leur peau de phoque, toutes se sont rhabillées et elles se sont laissées engloutir par l'océan. Toutes ? Non, il en reste une. Elle cherche sa peau. Elle ne la trouve pas. Elle commence à avoir froid, elle tremble. Elle appelle ses compagnes, mais sa voix se brise contre les flots. Elle commence à avoir peur. Elle pleure. Inuk, à ce moment-là, sort de sa cachette. Il s'approche d'elle d'une démarche chaloupée et lui demande si elle ne voudrait pas devenir sa femme. C'est ridicule. On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. Elle lui explique qu'elle n'appartient pas à ce monde-là. Mais Inuk insiste. Il lui dit que justement, ce monde-là, il pourrait lui faire connaître. Il pourrait lui apprendre les coutumes des hommes, les chants et les danses des femmes. Il pourrait faire d'elle une femme. Il pourrait même faire d'elle une mère. Pour une durée de 7 ans. Pour une durée de 7 ans et après, je te rends ta peau de phoque. À ce moment-là, alors, tu pourras choisir si tu préfères une vie de femme ou une vie de phoque. La femme a hésité, mais elle a suivi Inuk. Elle est allée jusqu'à son village. Oh, les premières années furent bonnes. Inuk aimait profondément sa femme, et sa femme aimait passionnément Inuk. Il lui a appris les coutumes des hommes, il lui a appris les chants et les danses des femmes. Il a fait d'elle une femme. Il a fait d'elle une mère. Elle lui a donné un fils. Et ce fut à son tour à elle d'apprendre à son fils les coutumes des hommes, les chants et les danses des femmes, les légendes et les merveilles de son propre monde à elle. Le fils a grandi. Les années ont passé. La 7e année s'est terminée. Et Inuk n'a pas tenu sa promesse. Durant la 8e année, la femme phoque a perdu toutes ses formes de femme. Sa peau s'est flétrie, ses yeux sont devenus vitreux, des cernes se sont dessinées sous ses yeux, ses joues se sont creusées, ses veines se sont gorgées d'un sang noir, ses cheveux commençaient à tomber. Cette nuit-là, dans le village, il semblait que tout le monde dormait. Pourtant, le fils d'Inuk a été réveillé par des éclats de voix. Il s'est levé, il s'est mis dans l'entrebâillement de la porte et il a vu. Inuk, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans maintenant, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit qu'au bout de 7 ans, tu me rendrais ma peau de phoque. Et tu n'en as rien fait. Mais regarde-moi, regarde. Cette peau, elle fait partie de moi. Ta peau de phoque? Tu me demandes ta peau de phoque? Si tu veux ta peau de phoque, c'est que tu veux repartir. Tu veux repartir dans un lieu où je ne peux pas te suivre. Pire, dans un lieu où ton propre fils ne peut pas te suivre. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais tu ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis véritablement. Ce que tu es véritablement, je vais te le dire. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise mère. Sur ces mots, Inuk a quitté la maison en claquant la porte. La femme Fox s'est relevée fébrile. Elle a fouillé dans toute la maison, elle a poussé le mobilier, elle a soulevé toutes les fourrures, tous les tapis, elle est allée dans la réserve, elle a poussé le traîneau, elle a fait tomber tous les harpons et... Dessous, il y avait sa peau de phoque. Mais elle était devenue toute sèche. Elle était devenue toute rêche. À son tour, elle est sortie de la maison. Son fils, qui n'avait rien dit, qui n'avait pas fait un bruit, a suivi sa mère. Elle est allée droit vers l'océan, là où les flots se brisent contre la banquise. Elle a plongé sa peau de phoque 3 fois dans l'eau. Et lorsqu'elle a ressorti, sa peau de phoque est devenue souple à nouveau, éclatante, soyeuse. Alors enfin, elle a pu l'enfiler. Elle s'est arrêtée net. Elle a senti, juste là, près de son oreille, le souffle de son fils. Mon fils, toi et ton père, je vous aime plus que tout. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est véritablement. Elle a fini d'enfiler sa peau de phoque et elle s'est laissée engloutir par l'océan. Le fils est resté là pétrifié. Rapidement, son père est arrivé, il a posé sa main sur l'épaule de son fils. Il lui a dit « Viens, fiston, viens. Rentrons à la maison. Ta mère est repartie d'où elle venait. » Le père et le fils sont rentrés à la maison. Et depuis ce jour, Inuk n'a plus jamais touché un seul de ses harpons. Avec son fils, ils sont devenus éleveurs de rennes. Si un jour tu as la chance d'aller dans le Grand Nord, si un jour tu as la chance de marcher sur la banquise, alors sois attentif, car peut-être au loin verras-tu dans les brumes du matin un homme sur son kayak, en train de discuter avec un phoque. À ce moment-là, tu sauras que mon histoire est vraie.
Merci.
Merci à vous.
Chapeau, bravo.
Bon, là, il n'y avait pas la gestuelle, du coup.
Ça nous emporte
déjà. C'est la radio.
Alors, moi, il me vient, alors au-delà de la beauté du texte, bon, effectivement, on est en radio, tu peux pas t'exprimer comme si tu étais sur scène, etc. D'abord, avant tout, bravo.
Merci.
Moi, je découvre un petit peu ça. Franchement, je me suis régalé. Et il me vient une question, qui vaut ce qu'elle vaut, je m'excuse, hein. Mais quelle mémoire !
Ah. Alors ça se travaille.
Ça me terrorise.
Non, mais ça se travaille vraiment, parce que quand j'ai commencé, je me suis dit aussi, c'est impossible. Déjà, quand j'ai commencé mes premiers comptes devant quelqu'un, j'avais des blancs. Mais en fait, c'est juste du travail. Et c'est tout à fait possible, en fait. Mais effectivement, c'est du travail et du travail de mémorisation. Mais c'est pas du par cœur. On n'est pas sûr du par cœur, mais...
Alors, il y a des moyens mémotechniques. Enfin, alors bon, c'est pas du par cœur, du coup, ma question elle tombe à plat. Mais comment on fait pour retenir un texte qui dure, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais...
On se le récite tout le temps, en fait. On se le
raconte. En
permanence,
ouais.
Ouais. Enfin, surtout, aujourd'hui, je me les récite pas tout le temps, mais avant de commencer, je les récitais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps.
Juste une question rapide, Isaac, est-ce que t'as, pour retenir toi les textes de tes chansons, des difficultés particulières ou pareil, c'est le fait de les jouer tout le temps, ça rentre et puis ça ressort plus.
Moi j'oublie, ouais. Non, en fait, ouais, il y a juste la répétition.
Ouais.
À un moment donné. Après, il y a des petits trucs. Des fois, j'utilise le sango, moi, pour quand j'ai des blancs. Non, mais c'est comme tous les... Pareil pour la guitare, enfin pour les instruments. À un moment donné, c'est la répétition du geste qui fait que ça devient un automatisme, en fait. Et c'est pareil pour le texte. Après, pour les chansons, c'est du par cœur, pour le coup. Ah, sauf, il y a un peu des parties d'improvisation, mais c'est pareil, quand on improvise, on a quand même une mémoire du cadre dans lequel on peut évoluer et des endroits où il faut pas aller, en fait. Et après, on va là où on peut.
D'accord.
Oui, parce que le spectacle dure quand même 55 minutes. Il faut
avoir le débit, la mémoire, c'est tout un gros, mais gros en fait, travail.
C'est pour ça qu'on ne part pas sur du par cœur, c'est que si on a oublié un mot, si on a oublié un élément du récit, normalement on peut le resituer n'importe quand dans le conte. Là, il y a 2-3 phrases que j'ai dites là, que d'habitude je ne dis pas forcément là. Et c'est pour ça que le conte, on le travaille surtout pas dans du par cœur, parce que l'inconvénient du par cœur pour le conte, c'est qu'en fait, après, on est bloqué sur un mot, sur quelque chose qu'on a oublié, et du coup, on sort du récit, alors que ce qu'on raconte, c'est un récit. Et du coup, c'est pas qu'on s'en fiche du mot, parce que les mots sont comme, le vocabulaire est choisi, mais au final, effectivement, ce mot-là, à ce moment-là, il n'a peut-être pas d'importance s'il sert pas le récit. Donc du coup, on est sur... Alors maintenant, ça devient presque du par cœur, Sabine, qui l'a déjà entendu, c'est presque du par cœur, mais c'est pas... De base, j'ai pas récité comme une poésie. Je l'ai pas apprise comme une poésie, un mot, puis... Enfin, une phrase, plus l'autre phrase, plus l'autre phrase. Non, non, c'est le récit que j'apprends.
Ça dénaturerait peut-être un petit peu le... Si c'était vraiment du par cœur et une...
Ça serait du coup plus jouer que, que raconter. Ouais. Parce que là, on n'est pas dans du théâtre, on est dans raconter un récit. Et sans support écrit, puisqu'on est sur de l'oral.
Alors du coup, là, tu nous as présenté La Femme Phoque.
Oui.
Qui est donc le conte d'ouverture de ton spectacle.
Oui.
Qu'est-ce qui arrive derrière alors?
Savitri, un conte indien. C'est l'histoire d'une princesse... Donc fille de roi, et arrive le jour où elle doit choisir un époux, puisque son père est vieux, son père lui dit maintenant c'est le jour, et elle choisit un homme pauvre, et cet homme pauvre est condamné à, il l'ignore, mais condamné à mourir, et elle choisit quand même de l'épouser. Et cette histoire, donc c'est un conte indien, donc de l'Inde, toute la force elle est aussi dans le fait que dans la culture indienne, une femme qui est veuve n'est plus rien. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a 10 ans, la loi était que la femme allait mourir sur la tombe de son mari. C'était, enfin, sur puisqu'il brûlait les corps sur le Gange, là, la femme allait sur le bûcher. Donc il y a toute cette dans ce conte-là, il y a toute cette histoire de que l'homme est voué à la mort et que du coup elle aussi.
Donc ce spectacle est constitué de 5 contes.
Oui.
Chaque conte exprime une condition de la femme.
Oui.
La femme enfant, la mère.
Oui.
L'amante.
Oui.
Quoi d'autre?
La fille. La fille, la maudite, la femme maudite, qu'on va dire la sorcière ou la femme bannie, celle dont on a honte.
Des choix forts quand même de conte. Qu'est-ce qui t'a amené?
C'est des personnalités, je pense un peu engagées, sans être dans un combat de s'identifier par rapport à l'homme, mais de revenir à sa nature, à sa peau, à sa force et à ce qu'elle peut vivre. Et que c'est juste ça. Il y a des récits de femmes qui sont super forts par eux-mêmes, par la force qu'elles dégagent. Moi, je suis particulièrement touchée par toutes ces histoires de ces femmes qui transcendent justement l'existence, la souffrance de l'existence et des fois leur condition de société, de culture, qui des fois effectivement quand même les a mis dans un cadre très restrictif et de soumission très forte.
Qu'est-ce qui a fait clair que tu as choisi particulièrement ces 50-là? J'imagine que tu as dû en lire d'autres, que tu as dû faire une sélection.
C'est de casser un petit peu ces a priori. Le dernier, la femme squelette, c'est que il y a tout le regard qui est porté sur cette femme qui est bannie, qui est soi-disant une sorcière, une séductrice, quelqu'un qui va... Il y a toute cette image aussi que la femme peut porter aussi. Moi, je trouve ça pas évident, pas toujours évident d'être une femme, en fait, de porter tout ça, de porter cette force, des fois, de séduction qui est pas forcément...
Ça peut être
C'est comme si on nous l'imposait aussi, enfin, je sais pas.
Ça peut être un poids, parfois, non?
Oui.
La société d'aujourd'hui veut ça, malheureusement.
Oui, et en même temps, ce conte, il est là depuis des...
Eh oui.
C'est ça. C'est que quand même dans le... En tout cas, là, c'est un continuité. Dans le chamanisme, la femme a un pouvoir, on va dire aussi, de vie. Même dans la culture judaïque, Ève, c'est la femme qui a... Ève, ça veut dire vie, et en même temps, c'est celle qui a tenté, c'est celle qui a chuté, c'est à cause d'elle que toute l'humanité est condamnée. Enfin, les femmes sont quand même... dans les cultures sont autant la force de séduction de vie et autant la force de chute et d'écrasement. Et je trouve que ça, c'est pas toujours évident d'avoir cette peau-là aussi, d'être le tout, quoi. Le tout en haut, le tout en bas. Et tout ça me parle beaucoup et voilà.
Des projets, des envies.
De continuer. Je commence à écrire un second spectacle, toujours de contes traditionnels. Pour l'instant, il en est à la jeunesse, donc c'est pas évident d'en parler. Mais oui, l'idée, c'est quand même de continuer à proposer des spectacles de contes. Celui que j'écris s'articule différemment. Là, sur le premier, je suis allée sur quelque chose de très très basique au niveau du conte, et le second, j'essaie d'articuler les contes les uns des autres, de trouver des échos et qui se mêlent presque, et en gardant bien l'idée que ce sont des contes traditionnels et que moi j'apporte juste j'amène sur l'ossature quelque chose, mais je garde l'ossature. Mais je vais peut-être un peu plus loin que le premier spectacle de contes dans la manipulation du conte traditionnel.
Tu restes fidèle au conte.
J'espère, on verra.
Il y a des idées, des thèmes, des faits précis que tu aimerais conter?
Alors, sur le prochain spectacle, c'est sur la musique.
Tu peux déjà nous dire un petit peu si tu as choisi déjà certains contes ou pas encore, ou tu es en phase de réflexion,
je pense que c'est un peu tôt.
C'est tôt, d'accord.
Ouais. Juste le décor, pour planter le décor, c'est que on arrive dans un royaume où la musique est interdite, où le chant est interdit et du coup presque le rire est interdit. Et on remonte pour savoir pourquoi ce roi a interdit la musique. Et donc, du coup, d'accord, on comprend qu'il y a une malédiction, une prophétie qui le lie à la musique et à la mort, et qui veut s'en dégager, et du coup, qu'il interdit la musique, et puis après, voilà. Mais en fait, l'histoire de ce roi, c'est l'histoire dans un conte, et donc c'est le fil conducteur, et après, vient se rapporter d'autres contes qui viennent étayer ce même conte.
D'accord, donc là, tu es en train de travailler sur ce projet-là. Le projet Claire de Peau, t'as pris combien de temps à mettre en place ?
Avant la première présentation, 6 mois.
6 mois de
travail. Que sur ce projet-là, ouais.
Donc, on inclut la sélection des contes, la mise en scène, les répétitions, on peut dire ça comme ça.
Alors ça, c'était avant la première représentation, mais là, toute cette année, j'ai quand même travaillé avec la metteur en scène, et on travaille encore ensemble sur le spectacle. Parce que quand je l'ai présenté la première fois, c'était pas abouti, c'était déjà moi personnellement mon premier spectacle, la première fois que j'étais sur scène, et en plus c'était la première fois que le spectacle était adressé, et donc il fallait le roder,
et donc au niveau de la mise en scène, encore aujourd'hui on peut dire que c'est pas complètement figé, il y a des choses qui peuvent changer encore.
Oui, parce que Savitri a été rajouté il y a 4 mois, le spectacle faisait 45 minutes et on a rajouté Savitri, donc on travaille sur Savitri. Quand je l'aurais adressé 10 fois, voilà.
Et en parallèle, tu continues à écrire parce que tu as écrit un premier roman?
Oui.
Le raffut des hirondelles?
Ouais, j'essaye, mais là, je trouve pas le temps. Effectivement, j'aimerais continuer à écrire des romans.
Tu peux nous dire 2 mots sur ce premier roman?
Le raffut des hirondelles, c'est 3 personnes, Nouba, Laura et Yann. Donc Laura, une Parisienne un peu superficielle, voilà, on va dire qui vit d'amour et d'eau fraîche sans trop se poser de questions. Yann qui est un baroudeur, qui est plus solitaire et qui voyage, qui est marqué par ses voyages et puis par c'est un solitaire, un taiseux, quelqu'un qui réfléchit. Et Nouba qui arrive du Tchad, qui arrive pour faire Sciences Po en France, ou le pays un peu des rêves, où il pourra étudier, où il pourra avoir un avenir. Et puis là, c'est la vie en France, et en fait finalement il se fracasse en France.
Le livre, on peut se le procurer où, si on veut le trouver, si on veut le lire?
Alors, comme il est sorti en 2016, maintenant, c'est un petit peu vieux. Du coup, il faut me demander sur mon site. Il y a mes contacts, clairebonaz.fr. Sinon, à la librairie du Grillé, à Tournon, où je travaille. Du coup, il est toujours en vente, là. Sinon, voilà, par commande sur Internet.
D'accord. Donc, l'actualité, si tu as des représentations, on va sur ton site?
Oui, voilà. Là, aux vacances de la Toussaint, j'interviens à la MJC de Thun, mais du coup, c'est pas autour de mon spectacle, mais c'est autour des contes. Et le spectacle, je le fais le 7 décembre à la Cavalart, à Thun-l'Hermitage, mais c'est sur mon site aussi.
Eh bien, rendez-vous est pris, alors.
Voilà. Avec plaisir.
Je vous remercie d'être venu dans les studios de RDB.
Merci à vous.
Oui, merci à vous.
Ouais, merci d'être venu nous présenter vos projets, c'était bien cool. On va se quitter en musique.
Avec le titre Grâce.
Ok, très bien.
Encore une fois, merci à vous deux, bonne continuation.
Merci.
Et n'hésitez pas à les contacter sur leur site pour un éventuel spectacle.
Voilà.
Au concert.
L'album d'Isaac qui s'appelle Paradoxe et le spectacle de Claire qui s'appelle Claire de Peau. Ça a été un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Un plaisir, oui.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Je me redresse quand j'ai chuté, ce n'est que par grâce. Et si ma promesse peut m'inviter à... Si je peux danser alors que j'ai boité, ce n'est que par grâce. Si j'essaye à nouveau quand j'ai raté, c'est par grâce. Je peux aimer du fond de ma solitude, ce n'est que par grâce. Si je peux marcher malgré les incertitudes, si je suis entendu quand je soupire, ce n'est que par grâce. Si mes pleurs se fondent dans mon rire, c'est par grâce. Malgré la mort, je peux jouir de la vie, ce n'est que par grâce. Et si je peux croire quand le doute surgit, oh. Si je peux chérir dans la douleur, ce n'est que par grâce. Et si mes mots ont de la valeur.